Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, ici Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM 99.5 à Bamako. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, la France secouée par des émeutes d'une ampleur sans précédent depuis près d'une semaine. Un ex-ministre algérien analysera les causes profondes qui ont mené à cette situation. La République démocratique du Congo a proclamé son indépendance le 30 juin 1960. Le fils de Patrice Lumumba et le conseiller principal du président de la RDC réagiront à notre micro sur la portée de cet événement. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, prenons tout de suite la direction de la France. Depuis le 27 juin dernier, l'Hexagone est secoué par une série d'émeutes d'une ampleur inédite. Un Français d'origine algérienne de 17 ans a été abattu froidement par la police à Nanterre, en région parisienne, suite à un refus d'obtempérer. La scène, filmée par un témoin, puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité un émoi considérable dans le pays. Toutefois, au-delà de la colère, cet événement a entraîné une vague d'émeutes bien supérieure à celle que la France avait connue en 2005. Si à cette époque les banlieues françaises s'étaient embrasées suite au décès de deux adolescents qui fuyaient un contrôle de police, aujourd'hui cette violence est sortie des banlieues. Le ministère français de l'Intérieur a comptabilisé quelque 5000 véhicules incendiés et 1000 bâtiments brûlés ou dégradés. De nombreux commerces ont été littéralement pillés. Selon le ministère de l'Économie, au moins 250 agences bancaires, 250 bureaux de tabac et 200 centres commerciaux ont été détruits. Il y a eu environ 250 attaques de commissariats ou de gendarmerie. Plus de 700 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Des maires ont également été personnellement visés. Le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses, en région parisienne, a été attaqué à son domicile avec sa famille par les assaillants. L'autre fait inquiétant de ces violences concerne les armes. Un média américain a constaté qu'un des participants aux émeutes a été vu en possession d'une arme qui faisait partie du matériel qui avait été fourni à l'Ukraine. Ce détail préoccupant montre que du matériel destiné à des fins militaires a fini par se retrouver en vente sur le marché noir et ainsi atterrir dans les mains de délinquants. Pour analyser en profondeur les raisons qui ont entraîné cette situation inédite en France, je vous présente Ferhat Ait Ali, ex-ministre algérien de l'Industrie et des Mines. Il nous fera part de sa vision personnelle des événements en France et de la manière dont ils sont perçus en Algérie.
Pouvez-vous nous dire comment cette situation en France est vue en Algérie par la population locale ?
Ben là, je vais parler en tant que citoyen algérien, parce que moi je suis pratiquement en contact permanent avec la société, donc on est dans la rue. Franchement, pour les Algériens, au-delà bien sûr de la tristesse pour le décès du jeune Naël, il n'y a pas franchement d'implication directe de la population algérienne dans sa majorité. Elle regrette aussi bien le geste de l'assassinat, je dirais froid, du jeune ressortissant français d'origine algérienne, qu'elle regrette aussi le reste de ce qui est en train de se passer. Population algérienne ne sont pas vraiment impliquées dans ce genre de réaction qui n'ont rien à voir avec l'indignation et la colère. C'est valable pour la France, c'est valable pour n'importe quel autre pays qui serait soumis à une débandade ou à des émeutes. Je ne pense pas que les Algériens soient solidaires en général de n'importe quel geste d'indignation qui dépasse les limites du respect des biens d'autrui ou de l'ordre public. Donc les Algériens ne se sentent pas plus que tristes pour tout ce qui est en train d'arriver, malgré leur indignation pour ce qui est arrivé à un ressortissant d'origine algérienne.
On a le ministère des Affaires étrangères algérien qui a rappelé à la France son devoir de protection et de sécurité des ressortissants algériens. Et selon vous, qu'est-ce qui a poussé Alger à sortir d'une posture qui est traditionnellement basée sur la non-ingérence dans les affaires des autres pays et plus particulièrement de la France ?
C'était pratiquement une réaction qui relève des attributions du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est dans son intitulé, il y a aussi de la communauté algérienne à l'étranger. Donc le ministère est censé veiller à intervenir contre la communauté algérienne ou d'origine algérienne. ou ayant des liens directs avec l'Algérie est touché. Ça a été une réaction à chaud du premier moment, juste après l'annonce du décès du jeune Naël. Ça n'a pas été une réaction relative à ce qui s'est passé les jours d'après. Donc, demander pratiquement à un pays ami qui a quand même chez lui une communauté assez importante d'Algériens ou de gens d'origine algérienne de veiller au respect de l'intégrité physique ou des droits de citoyens d'origine de notre pays, je pense que ça relève des attributions du ministère des Affaires étrangères, mais pas plus que ça. Je ne pense pas que dans l'esprit de l'intervention algérienne, il y avait ingérence ou volonté d'ingérence dans la manière dont la France gère l'ordre public ou ses ressortissants chez elle.
Très bien. On a les médias français qui, lors des premiers jours de cette crise, ont tenté de minimiser les faits en affirmant que la situation était moins grave qu'en 2005. Pourtant, à cette époque, en 2005, les commerces n'étaient pas pillés et les élus n'étaient pas pris directement pour cible. Et pourquoi, selon vous, la situation est bien plus grave qu'en 2005 ?
De toute façon, cette situation de 2023 se greffe déjà sur un marasme socio-économique et un autre marasme politique qui est induit déjà par les suites des conséquences de la crise du coronavirus et aussi par les conséquences de la crise ukrainienne dans laquelle tout l'Occident s'est impliqué comme partie prenante quasi directe. Ça a eu des répercussions sur la population, donc ça ne pouvait qu'être plus grave que 2005. La crise de 2005 n'était pas née dans un climat de morosité économique ou sociale en France ou en Occident. Dans le monde entier, je dirais plutôt l'atmosphère était à festoyer. Donc c'était un incident, une sorte d'orage dans un ciel d'été. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement une exacerbation de la tempête. Maintenant, pour ce qui est des pillages de magasins et tous les actes de vandalisme, et je dirais pour certains actes qui relèvent du banditisme, ceci n'a rien à voir ni avec l'événement, ni avec la tristesse pour la jeune victime d'origine algérienne. Et ce n'est même pas le fait d'Algérien, parce que la victime étant d'origine algérienne, on a l'impression que pratiquement tout ce qui attaque un magasin, tout ce qui fait un acte de vandalisme en France est algérien. Un vandal est un vandal. Si ça se trouve, tout ce que la France compte comme, je dirais, mécontent politique, mais plutôt mécontent économique, ou comme voyou, c'est impliqué dans cette histoire, toute souche, toute origine confondue, peut-être même y compris des autochtones européens de souche. On ne peut pas dire que c'est parce que les événements ont démarré suite à la mort d'un gosse d'origine algérienne que tout ce qui a suivi est allié à cette indignation. Je pense que ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui attaque des bijouteries, des magasins, ou qui attaque des biens d'autrui, ce n'est pas un mécontent, c'est tout simplement un bandit. Et ça s'est greffé, justement, je le dis, sur un climat social qui est des plus moroses. N'oubliez pas qu'il y a eu les gilets jaunes quand même pendant une année. Il n'y a pas eu de vandalisme, de vol à part quelques petits incidents parce que le problème était bien géré, mais aussi parce que toutes les populations impliquées avaient des revendications précises vis-à-vis du gouvernement. Donc, si le gouvernement les avait remplies, ça serait tu, mais là, non, là, ce n'est pas une revendication précise. Que revendiquent ces gens-là ? Ils revendiquent que justice soit faite, le coupable, présumé coupable, est en prison. Il sera jugé. Que peut faire, à la limite, le gouvernement français, à part traduire en justice le coupable de ce meurtre ? Rien de plus. Donc, au-delà du fait qu'il y a eu une indignation du premier jour, je pense que tout ce qui a suivi relève beaucoup plus de la jacquerie, sur laquelle s'est greffé plus que de la jacquerie, je dirais, du banditisme de rue. Les médias français qui pensaient que ça n'irait pas loin, et ils n'avaient peut-être pas imaginé le volet criminel de ces agissements. Ils avaient pensé au climat politique. Éventuellement, ils ont pensé que ça ne méritait pas tout ça, ça n'irait pas plus loin que ça, mais ça c'est beaucoup plus une analyse politique. Ils n'ont pas fait une analyse sociologique en temps réel de la société française actuelle. Enfin, quand je dis société française, pas la globalité, enfin du moins que la société française marginale actuelle, et qui a profité justement de ce mécontentement pour semer le chaos.
Justement, sur le volet politique, on a Emmanuel Macron qui avait notamment accusé les réseaux sociaux et les jeux vidéo d'être la cause de cette situation. Et sur les réseaux sociaux, on a remarqué que de nombreuses vidéos postées montraient des références, donc les émeutiers faisaient référence à un jeu vidéo violent très connu qui s'appelle Grand Theft Auto. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le président français? Et selon vous, qu'est-ce qui pousse la jeunesse à tout casser, hormis le climat économique, social que subit le pays depuis des années, comme vous venez de le dire?
À la limite, je dirais que ce qui pousse la jeunesse à casser partout dans le monde, il n'y a pas qu'en France, y compris en Algérie, je ne pense pas que ce soit des jeux vidéo. C'est beaucoup plus justement une certitude de l'impunité. Quand je dis l'impunité, enfin, les systèmes juridiques et judiciaires du monde occidental aujourd'hui, qu'ils essayent d'ailleurs de vendre au reste du monde, ne sont pas très très dissuasifs vis-à-vis du banditisme de rue, vis-à-vis de la délinquance mineure. Quand je dis mineur, pas celle des mineurs, la petite délinquance de rue n'est pas prise en charge comme étant de la grande délinquance. Je crois qu'il y a eu dans le monde entier un dévoiement du sens de l'ordre public ou de l'ordre général, de l'ordre en général. De là à dire que le grand F Toto, que moi j'ai mon enfant qui joue à ce jeu-là, à ma connaissance, il n'a jamais cassé quoi que ce soit à qui que ce soit, ni attaqué le moindre magasin de qui que ce soit. Bon, au-delà du jeu, il y a aussi l'éducation, il y a aussi le climat dans lequel baignent certains quartiers, certaines cités qui sont devenues pratiquement des zones, je dirais, qui échappent totalement à l'autorité et de l'État et des familles. Donc à partir de là, ce n'est pas les jeux vidéo. La Révolution française qui a guillotiné la moitié de Paris, plus même ses propres promoteurs, il n'y avait pas de grand chef auto à l'époque. Et même toutes les révolutions d'ailleurs. Il arrive à un moment donné que des mécontentements sociaux atteignent leur paroxysme, et quand sur le mécontentement et la révolte plus ou moins qui couvre dans la société, se greffe des phénomènes de délinquance, ce qui est tout à fait logique. À chaque fois qu'il y a un ordre public qui est ébranlé d'une manière ou d'une autre, c'est l'ordre établi qui est ébranlé, automatiquement l'ordre moral. Donc les franges de la société les plus marginales, elles en profitent automatiquement. Elles se disent que de toute façon, on peut noyer ça dans la révolte générale. Même les grandes révolutions n'ont pas échappé aux pillards, n'ont pas échappé aux profiteurs de troubles. Ça, c'est, je crois que c'est une loi de la nature. Mais il n'y a pas que ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi le président Macron a choisi le Grand Theft Auto. Il y a plein de jeux violents. Si les jeux vidéo devaient fabriquer les futures insurrections, je lui souhaite bon courage. C'est des milliers de jeux qui apparaissent tous les jours que Dieu fait sur le téléphone. Et ils sont tous faits justement sur une base, je dirais, de violence. Mais je ne pense pas qu'ils exacerbent la violence. Moi, je pense qu'à l'origine, dans l'esprit de leur concepteur, c'est beaucoup plus pour absorber une certaine violence de manière virtuelle que de la voir se manifester dans la rue de manière physique. Moi, personnellement, j'étais gosse à Alger, on n'avait pas de jeux vidéo. Nos enfants, ils ont ces jeux vidéo. Ils passent leur temps à se tirer dessus dans les jeux, mais les enfants d'Alger sont beaucoup plus calmes que ceux de 70 où il n'y avait pas ces jeux. On jouait directement avec des pierres dans la rue. Il y avait beaucoup plus de blessés, beaucoup plus de dégâts matériels qu'aujourd'hui où justement tous les gosses sont avec leur téléphone en train de tirer sur un gars qui se trouve en Corée du Sud, je ne sais pas où, mais bon, pas plus que ça. Franchement, je pense que pour un homme politique, c'est un peu court comme argumentaire.
Je vais passer au volet judiciaire, vous en avez parlé tout à l'heure. Les premières condamnations sont tombées et on a constaté que parmi les personnes qui ont été jugées, on a des peines de prison qui ont été prononcées de 4 mois ferme. Et pourquoi, selon vous, l'État se montre-t-il aussi faible dans sa réponse judiciaire ?
Je crois que l'État français est confronté à des milliers d'arrestations ne va pas se faire un millier ou deux milliers de bagnards. Mais c'est une erreur. À la limite, je ne sais pas, parce que là, c'est les premières condamnations, mais maintenant, la justice française a quand même un corpus juridique sur lequel elle travaille. Maintenant, si les premiers qui ont été jugés, c'est des mineurs qui ont été attrapés dans la rue en train de caillasser la police, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas la même sanction, mais il faut classer les délits. Maintenant, quelqu'un qui sort d'un magasin avec les produits d'autrui ou qui agresse des gens pour les voler, là, on n'en est plus dans l'émeute. Là, on entre dans le banditisme. Donc, sur le millier, il faudra peut-être attendre que tout ce bon monde-là soit jugé pour savoir qui a fait quoi et pourquoi il a été sanctionné ainsi. Parce que je doute fort que quelqu'un qui a été attrapé avec les biens d'autrui dans les mains ait coupé de 4 mois. Moi, là, je pense que c'est pour les petits mineurs qui ont dû être attrapés les premières soirées.
On avait un adulte de 21 ans parmi les condamnés. Donc, il est majeur.
Oui, 21 ans. 21 ans, il est majeur juridiquement. Mais, je dirais mentalement, je sais pas, il n'est pas si majeur que ça. Ce n'est pas une question de loi. Parce que pour la loi, normalement, aux majorités pénales, je crois qu'à partir de 16 ans déjà, il peut être jugé. Mais pour voir exactement ce qu'il a fait, il y a des gens de 21 ans qui sont des gamins dans la tête. Donc, je ne connais pas son dossier. Bah, c'est des milliers de dossiers, de toute façon. Je pense que la justice française n'a pas été instruite pour avoir la main lourde ou la main légère. Elle est censée se conformer aux lois telles qu'elles existent, se conformer aux fourchettes de sanctions telles que c'est prévu par le code pénal français. Donc c'est à cette justice-là de faire son travail. Mais maintenant, il y a des problèmes de fond qu'il faudrait régler. Et ces problèmes de fond, ils sont énormes. Ce n'est pas à nous, à partir d'Alger, de nous ingérer ou de les régler. Ce n'est pas à moi personnellement. Je crois qu'il appartient à la classe politique française de régler ces problèmes de société. Il y a des problèmes de confrontation culturelle, il y a des problèmes socio-économiques, il y a des problèmes de marginalisation de certaines couches. Mais il y a aussi des problèmes de racisme inversé. Vous savez, quand vous tolérez les dérapages, les dépassements de certaines communautés, c'est une forme de racisme envers elles, parce que ce n'est pas ces communautés qui dérapent. Dans n'importe quelle communauté, de n'importe quelle origine, quand il y a 1 million de personnes, et sur le million de personnes, il y en a une centaine qui ne respectent pas du tout l'ordre social ou l'ordre républicain ou les lois, et que vous négociez avec ces 100 personnes, vous nuisez aux milliers d'autres et aux centaines de milliers d'autres. Donc là, c'est comme si on disait, voilà, ces gens-là, il faut leur faire un traitement spécial parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils ne sont pas assez intelligents ou assez civilisés pour comprendre nos lois. Non, les lois s'appliquent à tout le monde, ni plus ni moins, sans pratiquement mettre le doigt sur l'origine de l'auteur d'une infraction ou sur l'origine aussi de l'auteur d'un acte méritoire. Je crois que dans un pays donné, quiconque vit là-bas, s'il se conforme à la loi et s'il fait des actes méritoires envers la communauté d'accueil ou envers son pays, parce que c'est son pays, c'est là son passeport, eh ben c'est un bon citoyen, point. Il ne fait pas franchement pas la fierté de sa communauté. Maintenant, s'il commet des actes délictuels, il ne fait pas la honte de sa communauté, c'est lui-même. Il faudrait quand même individualiser des approches. Et des bandes, c'est des bandes, qu'elles soient d'origine maghrébine ou de Sicile ou je ne sais pas d'où, c'est des bandes. Je ne comprends pas pourquoi les États actuels dans le monde entier ont cette mauvaise approche des populations qu'ils ont à gérer. Des approches partielles, sectaires, des approches communautaires. Un État, c'est une machine. C'est comme un engrenage, ça broie tout ce qui empêche l'engrenage de tourner. Abstraction faite de son origine, abstraction faite de son histoire, du passé et du reste. Les lois s'appliquent à tout le monde et on n'en parle plus. C'est ma vision des choses, c'est valable aussi en Algérie, c'est valable en Europe, peut-être même sur Mars, si on devait y aller un jour.
On a constaté parallèlement que des groupes de nationalistes français ont commencé à arpenter les rues de quelques villes françaises, pour donner à titre d'exemple à Angers, à Chambéry, mais aussi à Lyon cette nuit. Et ils étaient à la recherche clairement des émeutiers pour en découdre physiquement. Et selon vous, se dirige-t-on vers un scénario de guerre civile ?
Non, une guerre civile, c'est plus gros que ça. Déjà, pour une guerre civile, encore faudrait-il que les deux parties qui s'engagent dans cette guerre-là se partagent plus ou moins les attributs de l'État ou les moyens physiques aussi de l'État et matériels de l'État. Je ne pense pas que les pauvres malheureux, originaires, quand je dis pauvres malheureux, au sens moyen du terme, pas au sens attitude du terme, qui sont d'origine étrangère en France, aient les moyens d'engager une guerre, et encore contre un État qui réellement est censé être leur État d'adoption. Mais c'était à craindre quand même. C'était à craindre et ça devait arriver. Il y a l'exacerbation justement de l'extrême droite par le discours des politiques, mais il y a aussi l'exacerbation de l'extrême droite par le discours de l'extrême gauche. Je l'ai dit tout à l'heure, un État, c'est un engrenage. Si on fait des cadeaux à une partie, il faut s'attendre à ce qu'une autre demande un peu plus de cadeaux en se sentant plus habilité à les demander. Et ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Et il faut justement, c'est ça le juste milieu, c'est de traiter les citoyens d'une république en citoyens, ni plus ni moins. Et un citoyen, il est délinquant, il est délinquant. On s'empêche royalement de savoir d'où est-ce qu'il vient. Mais à partir du moment où certains veulent stigmatiser l'étranger, mais en même temps d'autres veulent faire de lui le chouchou de la République pour ne pas être accusé justement de stigmatiser l'étranger, on fait de la politique. Et quand les politiciens mettent la politique politicienne au-dessus des lois d'un État, à partir de là, on peut dire que cet État n'existe plus. Avec le temps, il s'érode. Et en général, quand les citoyens estiment que l'État ne les représente plus, eh ben, ils vont tous se faire représenter par leur chapelle. Et évidemment, comme il y a des dizaines de chapelles, ils vont s'agglutiner en fonction de ce qui peut bien les rapprocher. Je pense que la police française doit justement faire son travail d'aller intercepter ces gens-là avant que des choses autrement plus dangereuses n'arrivent. Mais en interceptant tous les délinquants, je dis bien tous les délinquants, qu'ils soient d'extrême droite, qu'ils soient d'origine étrangère, qu'ils soient d'origine autochtone, un État se doit de rétablir l'ordre.
Moi, je voudrais...
Et après avoir rétabli l'ordre aussi, d'expliciter définitivement cet ordre local, cet ordre national. Je n'ai pas de conseil à donner aux Français, ils sont chez eux. Comme je tiens à la souveraineté algérienne d'une manière, je dirais, peut-être épidermique, je respecte aussi la souveraineté d'autrui d'une manière tout aussi épidermique. Donc, mais je pense que c'est les politiciens français de ces 30 dernières années qui ont fait beaucoup plus de politique électoraliste, de politique politicienne, que de politique d'État. La France souffre de la disparition des hommes d'État. Depuis pratiquement le décès de Jacques Chirac, je n'ai pas vu une seule figure qui puisse remplir l'écran de télévision en France. Malheureusement, c'est devenu presque un phénomène mondial. Les leaders qu'on peut considérer comme des hommes d'État sur cette planète, ils se comptent sur le bout des doigts. Actuellement, on a des politiciens, c'est pratiquement des marchands d'aspirateurs.
Je vais passer à un volet un peu plus international. On a un média américain qui a remarqué que des armes qui avaient été livrées à l'Ukraine se sont retrouvés dans les mains des émeutiers. Et comment cela a-t-il pu arriver ?
Ah ben là, c'est grave. De toute façon, les armes livrées à l'Ukraine, elles se sont retrouvées partout, plus que sur le front, au vu des résultats. C'est pas les armes miracles qu'on prétend, mais les premiers jours du conflit en Ukraine ont entraîné les Américains à remettre des armes assez, je dirais, semi-collectives, des armes très très meurtrières mais légères. C'était dans le cadre justement d'une sorte de défense civile contre l'avancée des troupes russes. Donc il y avait des missiles de dernière génération anti-chars, des trucs anti-aériens, toutes sortes de bidules qui sont légers. Vous devinez quand même que dans un pays comme l'Ukraine, qui est pratiquement depuis la dislocation de l'Union soviétique, souffre d'une corruption généralisée, chronique, qui est devenue même traditionnelle de la classe politique, vous devinez bien que quelques-unes de ces armes ont pris la tangente. Maintenant, elles sont retrouvées entre les mains peut-être de quelques voyous qui devaient les utiliser pour d'autres choses que cette émeute-là. Bon, c'est ça, elles sont retrouvées dans l'émeute, c'est juste par simple opportunisme. Mais sinon, l'usage devait être beaucoup plus dangereux que ça et beaucoup plus structuré. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que ces mêmes armes se retrouvent entre les mains de groupes structurés, idéologiquement justement, homogènes, et qui ont d'autres plans que d'attaquer des fourgons de police à Paris ou des bijouteries ou quelque chose dans ce coup. Mais les Américains et les Occidentaux en général ont joué aux apprentis sorciers avec ce dossier ukrainien. Ils continuent d'ailleurs à jouer aux apprentis sorciers sous prétexte que la défaite leur est interdite, que la reconnaissance du fait qu'ils se sont trompés leur est interdite, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand les politiciens jouent leur carrière sur des coups de poker, et en attendant des résultats électoraux éventuels, évidemment, c'est ce que ça donne. Quand il y avait en France le général de Gaulle, c'était clair, c'était net, c'était précis pour tout le monde. Il ne s'attendait pas à être élu autrement que sur sa vision du monde. Il n'était pas prêt à négocier cette vision du monde. Ces gens-là, ces hommes d'État-là, qu'on avait en Algérie, on avait Boumedien aussi, les hommes d'État de cette époque ne négociaient pas leur vision. Ils avaient leur vision. Ils voulaient que les maîtres mettent leur vision en pratique. Ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont leur vision. Actuellement, vous avez le président chinois, vous avez le président russe, qui sont à peu près les exemples des derniers résultats de ces gens-là qui ont leur vision du monde. Mais beaucoup de chefs d'État à travers le monde n'ont pas leur vision du monde. Ils ont une vision qu'ils essayent de coller sur les grands courants dominants, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs à leur propre société. Si la société dérape, au lieu de la rattraper, beaucoup de chefs d'État, qu'est-ce qu'ils font? Ils surfent sur la vague. Après, vous avez des politiciens qui surfent sur les vagues. Et quand c'est une mauvaise vague, eh ben, tout ce bon monde prend la vague et se fracasse dans la figure sur une falaise. Et c'est ce qui a dû arriver avec cette histoire d'armes distribuées à tort et à travers, à un État dont personne ne contrôlait des flux, ni financiers, ni les intentions politiques, ni encore moins, les penchants juridiques. Tout le monde savait que l'Ukraine, c'était le pays de la corruption à grande échelle. Et on leur a livré des javelines, on leur a livré des missiles antiaériens de dernière génération. Eh bien, il faut s'attendre au pire.
Vu de Russie, on a l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, qui a déclaré que l'argent dépensé en vain par la France à l'Ukraine aurait pu être utile aux Français ordinaires. Et selon vous, pourquoi la France aime se mêler des affaires des pays étrangers, notamment africains? Je prends l'exemple du Mali, mais aussi du Burkina Faso, par rapport à leur coopération avec la Russie, au lieu de résoudre ses problèmes intérieurs.
Écoutez, de toute façon, la France n'aime pas se mêler des problèmes africains. La France considère que l'Afrique est un précaré, est une arrière-cour. Pour certains pays, du moins les ex-colonies francophones, c'est ce que fait l'Angleterre aussi, là où elle peut mettre la main. Un ancien colonisateur, par définition, il ne va jamais lâcher sa proie, quand il y a moyen de s'accrocher à cette proie. Maintenant, vous allez dire que la France aurait pu dépenser ça pour sa société, je dirais que la France ne dépense pas grand-chose en Afrique, hein. Elle pille beaucoup plus qu'elle ne prend. Si ça se trouve, cette société française, ceux d'origine africaine inclus, vivent en partie justement des ingérences de la France en Afrique. Donc, si on devait faire la balance entre ce que la France dépense sur certains conflits un peu partout dans le monde et sur ce qu'elle récupère en dividendes, je dirais quand même c'est une affaire, je ne dirais pas coûteuse, c'est une affaire juteuse pour la France. Je ne suis pas pour cette politique, mais à la limite, si j'étais français, je ne lâcherais pas une affaire juteuse. C'est logique, le monde est devenu un terrain de prédation. Mais maintenant, c'est aux Africains, justement, d'arrêter la prédation. Ce n'est pas en moralisant les relations internationales, ou en demandant aux prédateurs de devenir autre chose qu'un prédateur, que cela va s'arrêter. Tant que les gens peuvent trouver terrain à prédation, ils vont faire de la prédation. Particulièrement ceux qui ont construit pendant des siècles tout un système économique qui est basé sur la prédation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi diable voulez-vous que l'arrière-petit descendant d'un planteur de coton avec des esclaves devienne du jour au lendemain une sorte de gentil monsieur qui distribue ses bienfaits sur le reste de l'humanité? Et c'est des générations qui ont été formées sur cette logique. Donc, l'ex-président russe, il a quand même beau jeu de dire que la France aurait pu dépenser ça chez elle. Bon, à la guerre comme à la guerre, hein, parce que la France s'est impliquée dans un conflit où je ne vois pas ce qu'elle a gagné à part l'adversité avec la Russie qui, aux yeux des anciens hommes politiques français, était un allié objectif civilisationnel. Dans les années 60-70, malgré l'Union soviétique, beaucoup de politiciens européens ne voyaient pas en la Russie un ennemi civilisationnel. Mais je dirais que dans le cas africain, la France n'a pas perdu beaucoup de choses. Même en Ukraine, d'ailleurs, en Ukraine, la France a mis quelques milliards d'euros sur le tapis, mais elle attend des dividendes. Elle intervient en Ukraine de la même manière qu'elle a intervenu en Afrique, mais bien sûr avec beaucoup plus de difficultés. En Ukraine, ils n'ont pas affaire à des États faibles ou à des États qu'ils ont structurellement conçus comme faibles. Ils ont affaire à l'une des plus grandes puissances de la planète, qui a quand même des siècles de puissance et de prestige. Ça a mal tourné pour eux, tant mieux d'ailleurs pour le reste de l'humanité, mais je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Qu'ils aient fait un mauvais calcul dans leur esprit. Dans leur esprit, la Russie est considérée comme un gigantesque continent à dépecer. Eh bien, ça n'a pas marché, c'est tout. Mais le plan, c'est le même que pour l'Afrique. Et en Afrique, jusqu'à présent, je crois qu'ils sont gagnants.
Je vais revenir sur ces émeutes-là. Elles ont connu un écho hors des frontières françaises. On a vu des incidents en Belgique et en Suisse, notamment sur ce dernier week-end qui vient de s'achever. Et comment analysez-vous ce phénomène? Est-ce que finalement ce n'est pas l'Europe qui a un problème avec ses banlieues en général?
Bon, l'Europe n'a pas un problème qu'avec ses banlieues. L'Europe telle qu'elle a été conçue à partir de Maastricht, elle a des problèmes structurels. Mais de toute façon, je l'ai dit, au-delà de l'Europe, toute société, quand pratiquement elle passe par une phase de paupérisation, par une phase de difficulté économique, c'est comme le Titanic quand il a commencé à couler. L'eau entre dans les cabines d'en bas. C'est les marginaux, c'est des banlieues, enfin, c'est des défavorisés qui ressentent les effets des premiers. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seulement défavorisés au plan matériel, mais ils sont aussi défavorisés au plan politique et intellectuel. C'est une sorte, comme dirait l'autre nazi, là, de l'unprolétariat, c'est du sous-prolétariat qui a été éjecté en périphérie de la communauté, de la civilisation. Donc il survit, il essaie de gratouiller tant qu'il n'y a pas de crise socio-économique. Mais en temps de crise, le noyau central de ces États-là se resserre, les sociétés elles-mêmes, celles qui ont quelque chose à défendre, se resserrent, et bien sûr les marginaux deviennent plus agressifs, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais face à ce phénomène, il y a eu un déclic en France qui a dû entraîner automatiquement une sorte d'effet de contagion dans quelques pays voisins. Mais ce qui est curieux, c'est que par exemple, on ne voit pas ça dans d'autres pays européens, y compris latins. En Espagne, en Italie, c'est une autre vision du monde qu'ils ont. Et pourtant, l'étranger n'est pas plus choyé chez eux qu'ailleurs. Hein. Et n'est pas plus aimé aussi chez eux qu'ailleurs. Mais les sociétés ne réagissent pas de la même manière.
Je vais terminer sur une dernière question. Il faut se projeter sur l'avenir. L'an prochain, les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris. Et l'an dernier, la finale de la Ligue des champions de football qui devait initialement se tenir à Saint-Pétersbourg avant d'être déplacée à Paris pour les faits que l'on connaît, avait été marquée par de gros incidents en marge du match. Et est-ce que selon vous, la France est capable d'organiser de grands événements. Est-ce qu'il est raisonnable de maintenir l'organisation des Jeux Olympiques en France ?
Franchement, je ne sais pas, parce que d'ici 2024, il va couler de l'eau sous les ponts. Si ça se trouve, même le problème en Ukraine va être réglé d'une manière ou d'une autre. Enfin, je pense que d'ici là, la Russie aura trouvé le moyen d'imposer sa vision des choses et de négocier quelque chose qui tient la route. Donc, d'ici 2024, il s'en passera des choses. De toute façon, il y a quand même une variante délinquante dans la société française qui, malheureusement, est quelque part aussi constituée de gens d'origine nord-africaine ou africaine, en partie, en grande partie, pour être plus sincère. Donc, je dirais que même s'il n'y a pas ces émeutes-là, il n'y a jamais eu de compétition en France où il n'y a pas eu de troubles. Les troubles en France, il y a toujours ce genre de troubles, mais c'est comme les hooligans en Angleterre. Donc, je ne sais pas maintenant, je ne pense pas que le comité olympique va retirer les Jeux olympiques pour une émeute. Sinon, il n'y aurait pas de Jeux dans le monde entier. Pratiquement, c'est toute la planète qui est sujette d'une manière ou d'une autre à des émeutes sporadiques pour une raison ou pour une autre, des fois pour des raisons qui n'en sont pas du tout. Donc d'ici 2024, on ne peut pas spéculer là-dessus. Franchement, c'est difficile de faire un pronostic.
C'était Ferhat Haïtali, ex-ministre algérien de l'Industrie et des Mines pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a analysé les raisons qui se cachent derrière les émeutes qui secouent actuellement la France. Mesdames, messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le 30 juin dernier, la République démocratique du Congo a célébré le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Durant cette période, une figure majeure émerge, celle de Patrice Lumumba. Il a joué un rôle éminent dans la lutte pour l'indépendance de la RDC vis-à-vis de la Belgique. Monsieur Lumumba est devenu Premier ministre et s'est distingué par un discours radical contre le néocolonialisme. C'est justement pour ses prises de position que Patrice Lumumba a été assassiné en 1961. Élevé au rang de héros national en 1966, sa figure rayonne bien au-delà de l'Afrique. À Moscou, l'Université russe de l'Amitié des Peuples, qui a vu de nombreux étudiants africains y faire leurs études, porte le nom de Patrice Lumumba. Pour Spoutnik Afrique, Thomas Maté Pépé, conseiller principal du président de la RDC, et Roland Okito Lumumba, fils de Patrice Lumumba, président de la fondation Patrice Lumumba et ambassadeur à vie de la RDC, sont revenus sur la portée de cette date pour les Congolais. Écoutons-les tout de suite. Monsieur Lumumba, il y a 63 ans, la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance. Comment cette date a changé la vie du peuple congolais ?
Effectivement, cette date a changé le vécu du peuple congolais. Il était sous domination de la Belgique. Il y avait beaucoup de choses assez négatives qui se passaient à l'époque. On coupait les mains de ceux qui n'arrivaient pas à rassembler le quota de Kawetou et plein de méfaits. C'est une accession à la souveraineté qu'on peut être fier. Et pour moi, c'est quelque chose de positif qu'on s'est battu pour ça et que j'appartiens à un des hommes clés qui se sont battus pour cette indépendance. Donc c'est quelque chose de très positif.
Et pour vous, Monsieur Maté Pépé, que signifie cette date ?
C'est une date inoubliable. Comme nous le savons tous, nous Congolais et d'autres de la communauté internationale, l'indépendance était le 30 juin 1960, où nos pères fondateurs se sont battus. Après avoir vu et constaté tout ce qu'on a connu comme souffrance, esclavagisme, ils avaient décidé de mettre fin à l'esclavagisme et à prendre les choses en main. Et c'est depuis cette date-là que nous sommes devenus un État souverain. Souverain sur le plan national et sur le plan international. quelque chose a changé. C'est une décision que nos parents avaient prise à l'époque. Ça nous a ouvert l'esprit. Nous sommes devenus libres politiquement, économiquement, même en esprit. Donc, l'avenir de notre pays, c'est entre nos mains. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un grand changement depuis l'indépendance. Il y a eu des choses qu'on avait à l'époque qui continuent jusqu'aujourd'hui. Mais vous êtes d'accord avec moi, le pays, le nôtre, la République démocratique du Congo, avait un sérieux problème. Le problème de l'absence de l'État. Ce pays a souffert pendant plus de 58 ans. On avait ces problèmes. Et c'est seulement en 2019, lorsque nous avons eu le tout premier passation, la toute première passation de pouvoir entre le président sortant, qui est aujourd'hui sénateur à vie, Joseph Kabila, et le président actuel, Félix Tshisekedi, que nous sommes en train de revoir l'espoir de renaître, en fait, en nous, vu tout ce que nous avons connu, l'absence de l'État. Le pays était pillé, le pays était agressé. Aujourd'hui, l'espoir est en train de renaître. Nous sommes en train de nous battre à côté du chef de l'État. Évidemment, avec sa vision qui est exécutée par nous tous, c'est-à-dire le gouvernement, de faire en sorte de mettre en place une armée républicaine capable à sécuriser nos frontières. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas que l'armée, il y a aussi... Aujourd'hui, nous sommes en train de constater la mise en place d'une police professionnelle. Nous sommes en train de voir la justice équitable dans notre pays. Aujourd'hui, il n'y a plus des intouchables dans notre pays. Commettez une faute, la justice est là. Il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Et vous êtes d'accord avec moi, et vous pouvez même poser la question à vos amis, à votre ambassade qui est sur place, ils vous diront, bon, le changement, le grand changement qui s'opère dans notre pays. Donc, en d'autres termes, l'objectif qui a été pris à l'époque, en 60, par le père de l'indépendance, c'est en train d'être poursuivi par le président actuel. Donc voilà, aujourd'hui nous fêtons, on ne regrette pas, au contraire nous fêtons et nous sommes en train de fêter parce que nous sommes déterminés plus que jamais à développer ces pays.
Monsieur Lumumba, est-ce qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les Congolais ont réussi à prendre leur destin en main?
Je ne crois pas que monsieur tout le monde a pris son destin en main, la raison pour laquelle qu'on a eu pendant très longtemps de notre indépendance des dirigeants qui ne travaillaient pas dans le sens positif pour la population. Et qu'on ose espérer, après 60 ans, que les choses commencent à évoluer positivement, qu'on arrive à sensibiliser la population pour arriver à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour mieux profiter de leur souveraineté.
Monsieur Maté Pépé, quelle est aujourd'hui l'image de la Belgique au sein de la population congolaise?
L'image de la Belgique en RDC. La Belgique est comme tous les autres pays, un pays ami. Certes, qui nous ont colonisés, la population congolaise, et d'ailleurs, vous le savez, le roi belge était dernièrement chez nous. Le peuple congolais attendait le pardon. Bon, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Bon, on n'est pas là pour condamner ou justifier quelque chose, mais comme la date le dit, le jour de l'indépendance, la population a pris ses responsabilités en main. La Belgique, pour nous, il reste un pays frère, un pays ami. Ils ont une représentation diplomatique. Nous en avons aussi chez eux. Donc, on doit se regarder en face, comme des frères, comme des amis.
Et vous, Monsieur Lumumba, comment décririez-vous l'image de la Belgique aujourd'hui?
Au sein de la population, population congolaise, la Belgique n'a pas une image particulière, elle a une image d'ancien colons, de ceux qui nous ont colonisés, qu'on a vécu d'une façon un peu forcée, presque un siècle ensemble. Mais elle n'a pas, dans la jeunesse, elle n'a pas une image très particulière. Mais les nouveaux dirigeants en Belgique, ils essayent de se réconcilier avec le peuple congolais. On a vu un geste que nous considérons assez positif, de nous remettre la dépouille ou le reste de notre héros national qu'ils avaient confisqué pendant une soixantaine d'années, et avec un discours positif dans le sens de réconciliation de la génération dirigeante aujourd'hui en Belgique avec le peuple congolais. Il y a un discours positif, il faut qu'on en bénéficie, qu'on en profite pour essayer de voir comment corriger ce passé douloureux qu'on a eu à avoir ensemble à quelque chose de coopération ou collaboration entre nos deux pays.
Monsieur Lumumba, le système colonial dans son sens classique n'existe plus, mais on parle aujourd'hui du néocolonialisme qui s'exprime fortement au niveau économique. Que faut-il faire selon vous pour mettre un terme à cette dépendance, cette fois économique, vis-à-vis de l'Occident ?
Il faut qu'on arrive à mettre en place, à la tête de nos pays, des hommes intègres, des hommes qui pensent d'abord pays, qui pensent leur peuple, pas des hommes qui pensent intérêts individualistes. C'est ça qui a reculé notre continent de beaucoup. Mais aujourd'hui, que les gens deviennent de plus en plus conscients du rôle des dirigeants, nous espérons que la population va mieux, être plus difficile dans le choix des dirigeants pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'il puisse, ce peuple-là, bénéficier de sa souveraineté et ses richesses lui-même et pas être dans la néocolonisation, comme vous le dites. À l'époque de l'indépendance, je crois, il y avait 60 ou 65% de la population qui avait moins de 30 ans ou 35 ans, et ce pourcentage n'est toujours pas loin de ça. Même quand nous parlons du Congo, on parle de Lumumba. Il est mort à l'âge de 35 ans, 36 ans. On parle de lui comme un dirigeant jeune qui s'est battu pour les jeunes dans un pays jeune. Et le même pourcentage de l'époque reste encore d'actualité chez nous. Donc c'est cette jeunesse qu'il faut se baser dessus pour les enjeux futurs. C'est eux les bâtisseurs d'aujourd'hui pour mieux bâtir demain. Donc il faut qu'on travaille, qu'on fasse tout par rapport essentiellement à eux.
Et selon vous, Monsieur Maté Pépé, comment sortir de cette dépendance ?
Sur cette question, moi je veux que nos frères africains, mes frères congolais, doivent savoir une chose. Nous sommes tous des pays indépendants et souverains. On ne doit plus tourner le regard vers l'Occident. Nous devons tourner le regard vers nous-mêmes, notre fort intérieur. Qu'est-ce que nous attendons de notre pays ? Qu'est-ce que nous attendons demain de l'Afrique ? Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour développer ce pays. Nous avons toutes les richesses. Nous avons des hommes qu'il faut. Donc pour nous, pour moi, à ce qui concerne cette question, je pense que, tout comme moi-même, nous devons faire en sorte de valoriser notre continent. À l'heure actuelle, on ne peut parler de néocolonialisme. Tout ce que nous avons comme richesse, nous devons voir nos frères de l'autre côté comme des partenaires. Et cela doit être vice-versa. Ils doivent aussi nous regarder comme, nous considérer comme des partenaires. Il n'est plus question de venir piller nos ressources et partir et fixer le prix. Non. Aujourd'hui, nous devons nous-mêmes exploiter nos propres richesses, transformer cette richesse-là et le mettre sur le marché et le vendre au même titre que tout le monde. Et non venir piller et partir et nous renvoyer ce qui nous revient. Ce n'est pas ça que nous avons comme vision, surtout en RDC. Je ne sais pas si vous avez suivi le chef de l'État, le président Félix. Il ne cesse d'insister sur cela. Nous devons exploiter, transformer nos propres richesses. Et cela va aider à rajouter cette valeur pour donner du travail à nos frères congolais et aussi aux étrangers qui vivent au Congo. Il n'y a pas que le Congolais, il y a des étrangers, des amis étrangers qui vivent au Congo à la recherche du travail. Donc, en respectant ces modèles, moi, je pense que ce pays va décoller et le pays est en train déjà de décoller, malgré qu'il y a des ennemis de gauche à droite qui nous bloquent. Mais croyez-moi, ils perdent leur temps parce que nous sommes plus que déterminés. On a assez souffert. On a été pillés, il y a eu l'esclavagisme, il y a eu des viols, des violences faites à la femme. Et tout ça, nous avons compris. Et on s'est dit, il est temps, maintenant, plus que jamais, de tourner les regards vers le développement de notre pays.
Monsieur Lumumba, votre père Patrice Emery Lumumba a joué un rôle important dans l'indépendance de votre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ces idéaux politiques sont toujours d'actualité?
Si quelqu'un a pris une soixantaine d'années de son assassinat, on continue à parler de lui. On parle de lui parce que tout ce qu'il a dit il y a 60 ans, il est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Le panafricanisme, le bâtir un pays sans discrimination, la coopération nord-sud et la lutte contre la pauvreté, tout ça, il a parlé de ça. Et l'unité africaine, il a parlé de ça il y a une soixantaine d'années et ça reste encore des enjeux de l'heure. Donc nous considérons que si notre pays arrive à appliquer ce qu'il avait parlé de à l'époque, on ira vers un développement certain.
Monsieur Lumumba, il y a quelques mois, l'Université de l'Amitié des Peuples à Moscou a repris le nom de Patrice Lumumba. Quel sentiment avez-vous dans ce contexte?
C'est un sentiment de gratitude et des autorités russes. C'est aussi un sentiment de fierté par rapport à qu'ils ont reconnu par rapport après autant d'années cette image qu'elle est positive et leur redonner le nom d'une prestigieuse université, c'est quelque chose qui nous rend fiers, moi individuellement, fiers d'appartenir biologiquement à cet homme, en tant qu'Africain, fiers d'appartenir d'une grande université en Russie qui porte le nom d'un leader africain, ça nous rend tous fiers en tant qu'Africains.
Et vous, Monsieur Maté Pépé, quels sont vos sentiments à ce sujet?
Le sentiment de reconnaissance, et d'ailleurs, pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, lorsque l'État russe a décidé de rebaptiser cette université au nom de Patrice Emery Lumumba, moi j'étais à Moscou. Nous étions invités par le Parlement russe. Et pendant cette période-là, que la Russie avait décidé de rebaptiser cette université au nom de Patrice Emery Lumumba. Pour moi, c'est une reconnaissance à un homme qui s'est battu pour son pays. La reconnaissance pour un homme qui a donné l'indépendance à son peuple. Et c'est signe de reconnaissance, en tout cas, moi je vous dis merci.
Merci parce que aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté. J'arrive, j'atterris à Moscou. On me parle de cette université, j'ai visité. Et pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté de voir un Congolais que tout le monde parle. Or, ce monsieur n'existe plus. Aujourd'hui, ça va faire plus de 60 ans que ce monsieur n'existe plus, mais on continue à parler de lui. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, en RDC, nous sommes en train de tout faire. Tout faire pour bannir ce culte de personnalité. On veut travailler pour le bonheur du peuple. Et d'ailleurs, c'est un des slogans de notre chef de l'État, de notre pays aujourd'hui, le peuple d'abord. Donc, lorsque vous allez dans cette logique-là, donc, on s'oublie. Les autorités s'oublient. Ils sont là comme des ouvriers du peuple. Ils se mettent pour travailler pour le peuple. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, je dis encore une fois merci aux autorités russes de reconnaître la grandeur de ces messieurs-là, de reconnaître tout ce qu'il a fait comme effort. Il s'est battu pour son pays et aussi pour l'Afrique, pour l'humanité. Il a fait voir que ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer le monde. On doit se regarder en face, on doit travailler en étroite collaboration. Ce que vous avez, merci de nous le donner. Mais sur ce que nous avons, nous partageons. C'est un peu ça. Donc, Patrice Emery Lumumba, c'est une personnalité inoubliable en République démocratique du Congo, en Afrique et aussi dans le monde. D'accord, chez vous, vous avez baptisé cela, vous avez baptisé ce nom dans une de vos universités.
Monsieur Lumumba, à votre avis, quel rôle pourrait jouer la Russie aujourd'hui dans le renforcement de la souveraineté de l'Afrique en général?
La Russie peut jouer un rôle important, surtout que c'est un pays qui n'a pas colonisé des pays africains, un pays qu'il a accompagné certains pays dans le cadre de leur libération, un pays qui a les moyens aujourd'hui économiquement, technologiquement, pour amener En Afrique, on a besoin, on a beaucoup de matières premières, on a beaucoup d'hommes et de femmes, la richesse humaine, et on a besoin aussi de capitaux, on a besoin de technologies. On peut être avec la Russie dans les rendez-vous de donner et de recevoir, ce qui peut être quelque chose de très utile pour nous deux.
Et vous, Monsieur Maté Pépé, que pensez-vous du rôle potentiel de la Russie?
Moi, j'ai dit que la Russie, il joue déjà son rôle parce que nous avons voyagé dans pas mal de pays africains et on voit qu'ils ont des représentations diplomatiques, comme chez nous. Vous avez une grande ambassade. Il y a une étroite collaboration. Il y a cet échange d'expérience. Il y a cet appui sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. En tout cas, moi, je dis que la Russie doit continuer dans ce sens-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous étions invités à la Russie par la Douma. Et au mois de juillet, on sera encore en Russie, plus précisément à Saint-Pétersbourg, pour la conférence Afrique-Russie. Donc, il doit continuer à jouer ce rôle-là. Il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Europe. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a d'autres pays. Il y a l'Amérique latine, ce sont aussi les puissances. Comme l'Afrique aussi, ce sont aussi des puissances économiques. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de business, on ne peut plus parler de développement sans regarder l'Afrique. Tout se tourne en Afrique. Aujourd'hui, le business, c'est en Afrique. Donc, il est temps pour les autres qui n'ont pas encore commencé comme la Russie le fait, d'emporter ces pas-là. Et nous disons merci au président Poutine, merci au peuple russe, et cet amour qui manifeste à l'égard de nous, peuple africain, plus précisément au peuple congolais.
C'était Thomas Maté Pépé, conseiller principal du président de la RDC, et Roland Okito Lumumba, fils de Patrice Lumumba pour Spoutnik Afrique. Ils sont revenus sur l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ainsi que sa portée pour la population congolaise. Mesdames, messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Anthony Lefebvre, je vous donne très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.